Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mégaphone où nous allons parler de l'eau, cet enjeu vital que nous nous approprions à Jet très bientôt avec tout un cycle dont nous reparlerons plus tard et pour lequel nous avons du renfort, quelqu'un qui va co-animer l'émission avec moi aujourd'hui. Brunel, bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante en Master 1 Humanité et Environnement. C'est un nouveau master porté par l'Université de Nantes et tu fais ton stage à Jet FM, notamment autour des enjeux liés à l'eau et de leur documentation. C'est ce qui fait que tu m'accompagnes aujourd'hui pour cette émission où nous avons invité l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui s'investit sur ce champ et qui propose ce vendredi, en fin de journée, une fresque de l'eau, déclinaison de la fresque du climat. Pour en parler avec nous et donner un petit aperçu sous forme de jeu et bien au-delà d'échanges, nous avons Sarah Rahbaoui en plateau avec nous. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah, vous êtes coordinatrice départementale eau pour la CLCV. La CLCV, en quelques mots, c'est quoi ?
Alors la CLCV, c'est une association loi 1901, une association de défense des consommateurs et des usagers. On aide à régler des litiges sur des thématiques, sur des problématiques de consommation, de logement, de construction. Et puis aussi, on a un département développement durable. Et dans ce département, on décline plusieurs ateliers sur des thématiques comme le gaspillage alimentaire, la réduction, le tri des déchets. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau. C'est un enjeu qui monte en puissance à la CLCV. On travaille actuellement sur le 12e programme des agences de l'eau, qui sont des programmes qui vont porter des projets de financement de projets sur l'eau.
Voilà. Et vous vous investissez donc la CLCV en national sur des actions de plaidoyer autour d'une politique de l'eau, je cite, à la hauteur du dérèglement climatique. On reviendra dessus plus tard. Là, en local, ce que vous lancez à l'échelle départementale, c'est notamment cette fresque de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire, là encore, en quelques mots, ce que c'est que la fresque de l'eau ?
Tout à fait. Alors la fresque de l'eau, c'est un atelier de sensibilisation sur les enjeux de l'eau. On reprend des notions fondamentales comme le petit cycle et le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle naturel et le cycle anthropique de l'eau. Et ce qui va nous intéresser...
Alors juste, je vous arrête. Oui. Quand on dit cycle anthropique de l'eau, c'est-à-dire celui qui est modifié, impacté par l'activité humaine.
Oui, tout à fait. C'est lorsque l'on se met à prélever l'eau pour notre consommation.
D'accord, voilà. Donc vous remettez ces fondamentaux, le cycle naturel, le cycle anthropique.
Tout à fait. Et c'est un atelier d'intelligence collective, c'est un atelier auto-apprenant où les participants sont réellement acteurs et producteurs du savoir. On va regarder ensemble quels sont les impacts des activités humaines sur ces cycles-là, sur ces deux cycles-là, et quels sont les impacts des dérèglements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a toujours... plein d'idées, quel que soit son niveau de connaissance sur le sujet. C'est un atelier destiné aux experts comme au grand public. On a toujours des idées intéressantes qui font jour. À la fin, on a une partie débat sur les solutions à mettre en œuvre face aux problématiques qu'on aura constatées pendant l'atelier.
On précise justement, donc c'est ce vendredi, à quelle heure ?
De 18h à 21h à Openland.
Openland, c'est sur l'île de Nantes.
Oui.
C'est gratuit ?
Alors, non.
Non.
C'est payant. Vous avez un accès à la billetterie sur Eventbrite ou sur BilletWeb. Après...
Ça coûte combien ?
10 euros par personne.
D'accord. 3 heures d'atelier, 2 à 3 heures d'atelier. Ouais. Pour retrouver toutes les infos, il reste des places ?
Il reste des places, voilà.
Les informations pratiques, ouais. On tape CLCV Nantes, CLCV 44 et on... Fresque de l'eau et on retrouve tout ?
Alors, en tapant fresque de l'eau à Openland, vous allez retrouver toutes les informations. Après, si le prix est prohibitif pour certaines personnes. Il y aura des ateliers qui seront gratuits.
On va donner un petit aperçu en jouant nous-mêmes. Brunel, tu vas m'accompagner. Sarah, on a sélectionné, parce que vous venez de le dire, c'est la fresque de l'eau, ça dure 2 à 3 heures. C'est de l'intelligence collective. Donc, pour en savoir plus, il faudra s'y rendre. Mais pour découvrir d'abord, on a fait une petite sélection de cartes et peut-être qu'on peut démarrer cette phase-là. Sarah, il s'agissait d'abord de commencer. Normalement, vous commencez par expliciter, donc toujours dans ce travail de vulgarisation scientifique, à parler des ressources disponibles, où se trouve l'eau sur Terre. Voilà, je crois que vous avez sélectionné quelques cartes qui peuvent faire écho sur cette première tranche du jeu.
Alors là, sur la carte des stocks d'eau qu'on retrouve sur Terre, on a sélectionné la carte sol, la carte nappe souterraine renouvelable, la carte nappe souterraine non renouvelable et la carte atmosphère. Les participants sont invités à les replacer sur un plateau de jeu pour former la logique du cycle de l'eau naturelle. Il y a des thématiques qu'on va aborder qui ne sont pas forcément très connues et qui ont des implications également qui ne sont pas forcément évidentes. Par exemple, pour l'atmosphère, l'eau présente dans l'atmosphère, c'est pas quelque chose, une quantité qui est immuable. En effet, on a constaté que à chaque degré supplémentaire sur la planète, on a 7% d'eau en plus dans l'atmosphère.
Donc sur un scénario à plus 4 degrés, celui sur lequel travaille actuellement le gouvernement, 7 fois 4, 28. 28% d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc l'eau monte dans l'atmosphère, c'est déjà un cycle naturel, les plantes transpirent, enfin il y a une évapotranspiration et en tout cas des remontées de vapeur d'eau qui vont former des nuages, qui vont pleuvoir à leur tour. Ça c'est le cycle naturel, le petit cycle comme vous disiez.
Le grand cycle, oui.
Le grand cycle. Ok. Et là, avec le changement climatique, c'est le cycle anthropique.
Alors, avec le changement climatique, les dynamiques du changement climatique, on voit que ce sera perturbé, notamment sur la présence de l'eau dans l'atmosphère. On aura plus de gaz à effet de serre.
Mais qu'est-ce que ça va changer, cette eau en plus dans l'atmosphère ?
Sur les modèles climatiques et les nuages, on a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Il est certain qu'il y aura de plus fortes pluies, des pluies plus intenses. Et il est certain aussi que cette évaporation excessive a déjà une influence, en tout cas, sur le ce qu'on appelle l'eau verte. Cette eau qui va s'évaporer dans l'atmosphère, elle va s'échapper des sols. Et puis aussi, c'est ces sols qui ne sont plus capables aujourd'hui de retenir suffisamment l'eau parce qu'ils sont trop abîmés par les produits issus de l'industrie pétrochimique, par nos pratiques agricoles. Savoir l'agriculture de couvert végétal, c'est pas quelque chose de très très répandu. Donc aujourd'hui, on a aussi dépassé cette limite planétaire. Alors c'est ce qu'on appelle la limite de l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui est infiltrée dans les sols, soit évaporée ou soit transpirée par les plantes. Voilà.
Et cette limite, à la base, c'est sur la quantité, c'est sur la rupture du cycle.
C'est une histoire de rupture du cycle, tout à fait.
On va avoir de plus en plus des pluies diluviennes très intenses et très abondantes sur un laps de temps plus court.
Avec des sols qui sont en moindre capacité d'absorption, ça peut donner des crues.
Alors voilà, une des premières réjouissances qu'on va aborder dans ce jeu de la fresque de l'eau avec vous, Sarah. Rare, bah oui. Il y a d'autres cartes que vous avez sorties pour nous donner un aperçu. Quelles sont-elles ?
Alors oui, il y a une carte un peu énigmatique puisqu'elle suscite un peu le questionnement des participants. C'est la notion de nappe souterraine non renouvelable.
Alors les nappes souterraines, donc c'est des grands trous dans la roche où l'eau se stocke naturellement.
C'est déjà c'est bien vulgarisé. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Et puis il y en a un certain nombre qui sont non renouvelables. Ce sont des nappes souterraines dans lesquelles on va puiser. Il y a la nappe présente dans le bassin parisien et qu'on recharge artificiellement. Il y a la nappe du Sahara. Ce sont des nappes qui vont avoir du mal à se recharger à l'échelle du temps humain, à l'échelle des civilisations humaines. On appelle ça aussi des nappes fossiles. On peut se questionner là-dessus sur, alors, sur les nappes souterraines non renouvelables, sur notre façon de gérer, de prélever l'eau. Où est-ce qu'on la prélève, pourquoi, et comment on voit le futur, comment on gère le futur.
Là, pour le moment, les humains, nous puisons à la fois dans les nappes souterraines renouvelables et dans les non renouvelables aussi.
Alors, en France, on va privilégier les eaux de surface.
Donc, ce qu'on entend par eaux de surface, c'est rivières.
Les rivières, les lacs. Ouais.
Donc en France, on préserve pour le moment ces nappes phréatiques en global
et
surtout les non renouvelables.
Ouais.
Après, je crois que vous nous ameniez sur la question de la potabilisation.
Oui, alors il y avait la notion de potabilisation et d'eau prélevée non restituée. Alors souvent, y compris dans les médias. On parle de consommation d'eau, mais c'est un abus de langage. C'est-à-dire que l'eau consommée, c'est l'eau qui va être prélevée dans un milieu naturel et qui va être rendue à un autre milieu naturel, mais qui n'est pas le milieu naturel d'origine.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple ?
Alors, par exemple, on pourrait, sur une ville d'un littoral français, prendre de l'eau dans un fleuve et la restituer en fin de course, après traitement, dans le littoral.
Donc dans la mer.
Dans la mer, voilà. Ça, ce serait de l'eau consommée.
Parce qu'elle n'est pas restituée au fleuve où on l'a prélevée.
Voilà, tout à fait.
Il y avait aussi, quand on a préparé cette émission, Sarah, vous preniez l'exemple d'un agriculteur qui va prendre de l'eau de la Loire, par exemple, arroser ses champs. Ça n'est pas considéré comme de l'eau restituée. Avec Brunel, naïvement, on imaginait, oui, mais alors s'il n'est pas très loin de la Loire, qu'il est à 20-30 km de la Loire, ça va s'infiltrer et puis ça va redescendre vers la Loire. Donc, pourquoi parler d'eau consommée, ça revient dans le cycle.
Alors, il y a une partie de cette eau qui va ruisseler et immédiatement retourner dans la Loire, mettons. Mais il y a un certain pourcentage qui ne sera pas restitué. C'est-à-dire que ce sera pas, ça se retrouvera, cette eau ne se retrouvera pas dans le même stock d'origine. Il y en aura une partie qui se retrouvera dans l'atmosphère après évaporation. Une partie qui sera infiltrée, mais il y a la notion aussi de temporalité. Si elle s'infiltre, dans combien de temps elle va se retrouver dans la nappe ou dans la Loire, etc.
Ça peut prendre des dizaines d'années.
Ça peut prendre très longtemps. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accessibilité de cette eau. Voilà.
Donc l'eau qu'on a prélevée dans la Loire, en tout cas celle qui reste disponible, et le renouvellement à la fois pour les espèces vivantes et les humains qui l'utilisent.
Oui.
Donc là, c'était la différence entre l'eau prélevée, l'eau consommée, l'eau prélevée, donc cet abus de langage.
Et la confusion qui existe, c'est la confusion qui est faite entre eau prélevée et eau consommée. Voilà. Concernant la potabilisation, actuellement, on a un projet en Vendée, le projet Jourdain, qui va un petit peu court-circuiter le cycle de l'eau anthropique traditionnelle tel qu'on le voit majoritairement en France. C'est-à-dire que l'eau, au lieu d'être traitée puis rejetée au milieu naturel, elle va être traitée et retournée pour nos usages domestiques.
Donc, on utilise de l'eau chez soi pour la machine à laver, les toilettes, la douche. Eh bien, elle repart dans au lieu d'être rejetée, traitée, rejetée dans la Loire ou dans la mer, en fonction des usages. On va la renettoyer, la remettre dans le circuit pour les toilettes, la machine à laver.
Et... C'est ça. Et jusqu'ici, il pouvait y avoir quelques blocages au niveau des mentalités. Parce qu'effectivement, c'est de l'eau qu'on va utiliser pour nos toilettes, etc. Et peut-être qu'il y a ce petit blocage de se dire « Ah, mais si on la remet dans notre circuit d'utilisation, ce sera de la mauvaise eau. »
Or, elle n'est pas propre, sous-entendu.
Voilà. Or, cette eau est parfois plus propre que l'eau qui va être prélevée dans le milieu naturel.
Comment est-ce qu'on explique que cette eau puisse être plus propre ?
Il y aura un premier traitement et puis parfois certains milieux naturels sont extrêmement pollués.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est appelé à mettre en forme une économie circulaire autour de l'eau. Enfin, ce qu'on appelle en tout cas l'économie circulaire plutôt, et donc en circuit un peu fermé, et que ça existe et que c'est déjà développé dans tout un tas de pays sur la planète et ceux qui doivent gérer une ressource en eau rare.
Oui.
Je vous laisse poursuivre... Sarah.
Alors dans ce jeu, on part très rapidement en troisième étape sur les impacts des activités humaines. On essaye de relier ça, ces impacts des activités humaines sur les différents cycles qu'on a vus auparavant. Et puis au fur et à mesure de l'atelier, différentes discussions s'enclenchent entre les participants. Là, on a retiré ensemble la carte agriculture et la carte aménagement du territoire. On a vu avant la carte sol, difficulté d'infiltration. Alors les pratiques agricoles et l'artificialisation du territoire vont évidemment avoir des impacts sur ces cartes-là. Au niveau de l'aménagement du territoire, ce qu'on retrouve, c'est qu'on perd l'équivalent en France d'un département en surface sol tous les 10 ans.
Du fait de l'artificialisation.
Du fait de l'artificialisation des sols. Ça peut nous poser question aujourd'hui par rapport à la situation sur l'eau. Est-ce que c'est un modèle viable ? À quelle échéance on se place ? Parce qu'effectivement, si on se retrouve avec un territoire ayant de faibles capacités d'infiltration, ça va avoir des impacts en chaîne sur l'agriculture, sur le débit des cours d'eau, etc., sur les usages domestiques.
Alors ça, théoriquement, les pouvoirs publics en ont pris conscience et ont défini des objectifs de zéro artificialisation nette des sols qui font... l'objet de, encore malgré tout, de bien des débats et de tentatives de contournement par certaines collectivités et élus locaux.
Alors, il y a toujours ce clash entre la prise de conscience écologique et la réalité économique. Aujourd'hui, un terrain agricole reste, comparé à un terrain en ville, ça reste une bouchée de pain. Ça reste une bouchée de pain et c'est très compliqué de changer nos pratiques de construction par rapport à ça.
Un autre impact des activités humaines qu'on a découvert avec vous, Sarah Rahbaoui, qui animait ces fresques de l'eau et qu'on ne connaissait pas avec Brunel, eh bien c'est un impact du transport maritime.
Oui. Alors, il y a le transport maritime. Encore une fois, c'est une des multiples notions qu'on aborde dans la fresque de l'eau. Les eaux de ballast. Donc, ce sont les eaux qui vont être prises par les navires pour les stabiliser à un point B de la planète et qui vont être relarguées à un point C, à l'autre bout de la planète. Et le problème, c'est que ces eaux, elles ne sont pas systématiquement traitées. Il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, le droit aussi pousse dans ce sens-là, le droit européen notamment. Mais vous imaginez bien qu'au niveau de du contrôle. Oui, c'est très compliqué à mettre en œuvre.
Pourquoi est-ce que ces eaux, le cargo les prend pour s'équilibrer ? Pourquoi est-ce qu'elles sont polluées ?
C'est pas une pollution stricto sensu, c'est qu'on pourrait prendre avec nous des espèces exotiques envahissantes. C'est déjà le cas sur le pourtour méditerranéen, sur une partie de la Méditerranée, avec le poisson lion, qui est un prédateur, qui vient dérégler la chaîne alimentaire, et le crabe à pince bleue, qui vient aussi, qui fait des ravages sur le système ostréicole. Donc, on a de nouvelles problématiques qui viennent s'ajouter et limiter l'impact d'espèces exotiques envahissantes, c'est très compliqué. À moins de devenir prédateurs nous-mêmes de ce crabe à pince bleue. Mais oui, c'est une réelle solution qui est envisagée. Je ne sais pas si c'est la meilleure, je n'ai pas...
Ouais. Comme sur certaines algues,
oui.
pareil, qu'on pourra peut-être utiliser un jour. En tout cas, merci Sarah. On voit bien là, la logique de cette fresque qui permet à la fois de rentrer, d'avoir une vision globale du cycle de l'eau, des enjeux en cours, et puis aussi de soulever des points précis dont on n'a pas forcément connaissance en tant que grand public. Combien de fresques de l'eau est-ce que vous avez fait ou vous êtes amené à faire par an, un ordre d'idée ? Est-ce que ça a vocation à se répandre autant que la fresque du climat, auprès de quel public, avec quelle ambition ?
Alors la fresque de l'eau, tout comme la fresque du climat, elle vise le public le plus large possible, un public expert comme un grand public, aussi un public adulte et un public enfant. En ce moment, on est en train de développer une fresque de l'eau junior, qui est en phase de bêta test et qui sortira normalement, c'est prévu au mois de septembre. Qui sera finalisé au mois de septembre. En termes de massification, c'est une fresque qui est surtout implantée pour le moment dans le sud de la France et la région parisienne. Et on essaie de la faire monter aussi en puissance en Loire-Atlantique, avec un petit réseau de quelques fresqueurs.
Alors on a eu, hein, pas très loin, on n'est pas en Loire-Atlantique, mais les affrontements de Sainte-Soline et des bassines qui ont ramené cette question de l'eau, plus les peurs de sécheresse sur cet été, au cœur des enjeux. Je voulais rappeler un peu en national, hein, les prévision, c'est moins 10 à 40% d'eau disponible avec le dérèglement climatique en France. Hein. L'eau qui est d'ores et déjà aussi contaminée à vaste échelle. Il y a eu récemment un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui montrait qu'un tiers des eaux françaises seraient polluées par un métabolite dont la molécule mère est classée comme probable cancérigène. C'est le cas dans l'ouest de la France où on se situe. Donc, on est en tout cas pour vous le souhait d'une association à la base de consommateurs, hein, je répète, comme la CLCV, de s'investir sur l'eau. C'est parce que il y a vraiment, de votre point de vue, une urgence vitale qui se joue dès aujourd'hui.
Alors, sur des questions sensibles sur les mégabassines, j'ai mon avis personnel, mais l'association, la CLCN, ne s'est pas prononcée dessus. Et,
Alors, dans votre plaidoyer, ça n'est pas précisément sur les mégabassines de Sainte-Soline, mais il est dit en tout cas que des grandes bassines au service d'un modèle d'agriculture intensive et productiviste ne faisaient pas partie des solutions d'avenir.
Oui, alors au niveau local, c'est le plaidoyer national. Au niveau local, on n'a pas encore discuté de cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une solution. C'est un modèle qui a été décrié par le GIEC régional. Beaucoup de scientifiques, d'hydrologues se prononcent contre. Il y a des raisons contre. Après, c'est une question encore politiquement sensible. Donc, au niveau local, je ne me prononcerai pas sur le sujet.
On va maintenant localiser un petit peu quelques-uns des enjeux qu'on vient d'évoquer hein, sur ces grands et petits cycles de l'eau, avec eh bien, un topo sous forme de chronique proposé par Brunel, qui va nous parler de ce qui se passe côté eau en Loire-Atlantique.
Et oui, effectivement, je pense qu'il est intéressant de recontextualiser un peu cette problématique de l'eau sur notre territoire de la Loire-Atlantique pour parler à un maximum de personnes qui seraient intéressées par votre fresque de l'eau. Parce que, en effet, la Loire a longtemps été considérée comme une ressource sans limite, et l'eau en général, hein, sur tout le territoire français d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, le territoire ligérien et Nantes Métropole rencontrent des difficultés de production et d'approvisionnement en eau de façon ponctuelle, mais on le sait, ces situations vont se multiplier dans les années à venir. Les conséquences du dérèglement climatique, combinées à la croissance démographique du territoire, mettent en tension un système vulnérable qui doit être géré de façon durable si l'on souhaite préserver son équilibre. Maintenant, dans un premier temps, il est important de rappeler la disponibilité de la ressource en eau sur notre territoire avant de pouvoir en appréhender les enjeux, les causes et les facteurs. Notre source principale d'eau provient des quelques 10 000 km de cours d'eau qui recouvrent le département. Cette eau passe ensuite en partie par des usines de traitement avant d'être mises à notre disposition. L'exploitation des cours d'eau est complétée par le pompage des eaux souterraines. Elle regroupe donc l'ensemble des réserves d'eau de sous-sol, dont les nappes souterraines ou phréatiques. La Loire-Atlantique en compte 25. Les usages de cette ressource en eau sont variés. En 2020, sur les 128 millions de mètres cubes d'eau prélevés, 90 millions ont été rendus potables, dont les trois quarts à destination des habitants. Rajoutez à cela 18 millions pour l'irrigation et l'élevage, et enfin les 8 millions restants pour l'industrie. Parmi les gros consommateurs du territoire, on retrouve la laiterie d'Ancenis-l'Aïta, la centrale EDF de Cordemais ou encore l'usine Nestlé à Valette. On voit donc que la Loire-Atlantique est desservie de manière correcte en termes d'eau. Pour autant, seulement 1% des cours d'eau sont en bon état écologique. Sur le littoral et l'estuaire, on relève de bonnes qualités sur l'essentiel des masses d'eau souterraines. Cependant, plusieurs problématiques mettent en cause leur viabilité, et ce depuis quelques années déjà. On note une dégradation globale de la qualité de l'eau. Elle est évaluée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne selon différents indicateurs dont les matières organiques et oxydables, le phosphore, les nitrates, l'azote ou encore, on les connaît bien, les pesticides d'origine agricole. Leur présence est régulièrement mesurée grâce aux 60 stations de mesure du département. On peut retenir deux données importantes parmi les nombreuses mesures faites: les concentrations en nitrates qui augmentent de façon globale sur le territoire, et on remarque aussi la présence quasi généralisée de pesticides dans les eaux souterraines. Un exemple récent de cette problématique est le signalement de 33 polluants qui ont été identifiés dans l'eau potable de la nappe de Machecoul pas plus tard qu'en mars 2023. La nappe de Machecoul, pour rappeler, c'est donc celle qui en partie fournit le territoire de Nantes Métropole. Le secteur de Machecoul fait par ailleurs partie, avec le bassin de la Vilaine, des masses d'eau dites en mauvais état sur notre territoire. Mais malgré la présence généralisée de pollution, les taux maximaux de contamination sont en baisse. Et c'est pourquoi 17 de nos nappes sont considérées en bon état chimique. Au-delà des pollutions présentes dans l'eau comme partout en France, la ressource en eau du territoire fait face à d'autres enjeux majeurs et notamment environnementaux. Effectivement, dans le contexte du dérèglement climatique, une des conséquences les plus visibles sur notre territoire depuis quelques années est l'augmentation des sécheresses anormales. Après une année 2022 marquée par une recharge hivernale très courte pour nos nappes phréatiques, suivie d'un fort déficit pluviométrique et d'épisodes de canicule, les ressources en eau souterraine présentaient un état très dégradé à la fin 2022. Même si les pluies de mars et d'avril 2023 ont permis de réamorcer une recharge hivernale significative pour les nappes d'eau souterraine, à l'échelle nationale, 68% des niveaux des nappes phréatiques restent sous les normales mensuelles en avril 2023. Mais les eaux souterraines ne sont pas les seules à être concernées par ces bouleversements. La Loire a connu une baisse importante de son débit l'été dernier. Elle est descendue à moins de 100 mètres cubes par seconde. En temps normal, son débit moyen est de 931 mètres cubes par seconde. Parmi les conséquences des sécheresses de 2022, on se souviendra des nombreux arrêtés de restriction d'usage de l'eau qui ont continué jusqu'à l'hiver 2022, voire même 2023, et aussi de l'impact sur la biodiversité parmi tant de conséquences. Effectivement, cette biodiversité, qui est déjà mise en péril par l'urbanisation du territoire, eh bien, elle souffre fortement des canicules et de la déshydratation qu'elle entraîne. Alors que les végétaux peinent à résister, les espèces animales se mettent en danger pour trouver l'eau nécessaire à leur survie. En bref, face à ces sécheresses qui vont se renforcer dans les années à venir, il faut penser à de nouvelles façons d'économiser et de recycler l'eau. Aujourd'hui, moins d'1% de nos eaux polluées sont recyclées, ce qui est un chiffre très faible, trop faible. On peut espérer que des projets comme le projet Jourdain dont nous avons parlé, lancé par la Vendée en 2022, verront le jour sur notre territoire à leur tour. Ce programme a donc pour objectif de transformer les eaux usées en eau potable pour les remettre à disposition des populations dans une dynamique donc d'économie circulaire. Même si c'est encore à l'état d'expérimentation, beaucoup d'espoirs sont portés par ce projet et on espère qu'ils seront multipliés sur le niveau national. Les eaux usées urbaines représentent environ 4 milliards de mètres cubes d'eau par an pour la France métropolitaine. Les traitements qu'elles subissent sont suffisants pour rendre les eaux traitées conformes à des usages divers que nous avions cités, dont les irrigations d'espaces verts ou de plantations agricoles, le lavage des sols ou encore des usages plus individuels comme l'alimentation des toilettes, de nos lavabos, de nos machines à laver, etc. Alors même si rendre potable les eaux usées semble une solution encore un peu lointaine pour certains, on sait que plusieurs solutions de recyclage existent et sont déjà mises en place dans plusieurs autres pays du monde. Alors ce n'est qu'un exemple des nombreux enjeux qui nous attendent, mais la controverse autour des mégabassines, les pratiques d'élevage intensif, la croissance démographique et l'augmentation du niveau de vie qui va avec, pour n'en citer que quelques-uns, sont des enjeux à prendre tout autant en compte dans les mois et années à venir pour lutter ensemble contre la raréfaction de l'eau. Et c'est pourquoi des fresques de l'eau comme la vôtre sont très intéressantes et très importantes pour permettre de massifier cet enjeu et de le porter à plus de monde et parler au grand public.
Merci Brunel pour ce topo intéressant et très complet. Alors quand on t'écoute, on se dit la Loire-Atlantique, on est pas mal pourvu par rapport à d'autres territoires. Les nappes profondes sont peu polluées officiellement. On va voir peut-être qu'il y aura des réactions de Sarah. Les eaux de surface le sont bien davantage. Il y a des projets innovants qui se mettent en place en Vendée comme le projet Jourdain. Voilà si on doit faire. Et autre particularité de notre territoire, au niveau de la consommation, à bien différencier du prélèvement, vous me corrigez si je fais une erreur. Généralement, l'agriculture prend une part beaucoup plus importante, mais vu la densité démographique et de population, eh bien, ce sont les usages humains directs qui là prennent le pas.
Exactement.
Si on résume un petit peu quelques éléments clés de ce que tu nous as donné. Sarah, est-ce que y a des points que vous retenez ou qui vous donnent envie de réagir ?
A priori, non. C'était un topo très complet. Merci beaucoup. Le pourcentage pour l'état écologique des masses d'eau m'a particulièrement interpellée. Donc à voir ce qui va évoluer dans les prochaines décennies, dans les décennies à venir.
Quand quel pourcentage ? Celui sur les cours d'eau dans un bon état écologique qui serait de moins de 2% ?
Oui.
En Loire-Atlantique, oui. Ce qui veut quand même dire qu'il y en a 98% qui sont pollués, dégradés. Mmh. Oui. D'ailleurs, je précise que, eh bien, côté rédaction à Jet, on reçoit toutes les semaines eh bien, des communiqués de presse de la préfecture faisant état de pollution accidentelle, un coup sur la Sèvre, un coup sur l'Erdre, sur d'autres cours d'eau, au point que le mot accidentel est questionné avec interdiction de pêche, de baignade, de tout usage, et puis que c'est aussi quelque chose qui arrive fréquemment pour les habitants de Saint-Nazaire. Mmh. Tu m'en parlais, Brunel, puisque tu connais. Voilà, et bien tout ça a un impact sur la qualité de la ressource et l'environnement et ce qu'on peut faire et attendre de l'eau. Pour finir, peut-être un petit mot, Sarah, sur les outils au niveau de la CLCV. Je rappelle que c'est l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie dont vous faites partie. La manière dont la CLCV travaille en termes d'outils pédagogiques. Là, il y a la fresque de l'eau, mais au-delà de ça, vous allez continuer et vous avez déjà des choses en projet pour porter cette question dans le débat public. Et vous travaillez avec des outils du design fiction, de la méditation, des choses assez surprenantes que vous allez aussi petit à petit décliner là, dans les années à venir.
Ah oui, on va notamment aborder la question de l'eau dans un atelier sur les limites planétaires. On va aborder aussi la question de l'eau à travers la thématique de l'adaptation au changement climatique. On a également le projet de créer un escape game qui intégrera également les thématiques de l'eau. Voilà.
Et vous travaillez sur des scénarios prospectifs, dont j'espère on aura l'occasion de reparler ensuite, plus tard, mais où vous demandez aux participants de se projeter en 2050 dans une situation très dégradée d'accès à la ressource, mais avec des solutions qui ont été pensées et mises en œuvre collectivement.
Alors ça fait partie de la fresque de l'eau. C'est ce qu'on appelle la fresque de l'imaginaire, qu'on a adapté à la métropole, à ce qui se passe à Nantes. Avec les enjeux de Nantes, on invite les participants à plonger dans un Nantes 2050 pour pouvoir mieux imaginer ce qui pourrait s'en suivre. On prend des données issues de projections climatiques.
Donc Nantes en 2050, la Loire est basse, voilà, une bonne partie de l'année.
Voilà, avec un débit qui est descendu à moins 30 jusqu'à moins 50%, etc. Et à partir de ces données, on invite les participants à, oui, certes, le monde sera plus contraignant, plus compliqué, mais cette ressource en eau, elle sera mieux partagée, mieux gérée, mieux utilisée. D'après vous, pourquoi ? D'après vous, comment ? Voilà.
On peut rêver aussi pour imaginer d'autres futurs par rapport à cette situation. Merci Sarah Rahbaoui d'être venue nous parler de cette fresque de l'eau. Je rappelle qu'elle est ce vendredi à Openland sur l'île de Nantes, qu'on peut trouver les informations sur le site d'Openland avec la billetterie en ligne. Merci Brunel pour ton travail de cadrage et de transmission.
Merci à vous.
Cette émission est maintenant terminée. À suivre dans un instant, Pensée locale, le programme de reportage court 5 minutes de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et tout de suite après, ce sera Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie, économie sociale et solidaire en Pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Jonathan Brosseau. Jeune maraîcher, il vient de s'installer à la Plaine-sur-Mer et de créer le potager d'Hector. Il y cultive des légumes bio, de saison, et vend sa production ainsi que les produits de partenaires locaux lors d'un marché à la ferme bi-hebdomadaire. Fraîcheur et production locale garantie.
À l'origine, je ne suis pas du tout issu des métiers agricoles.
Ma formation initiale, c'est la bioinformatique.
La bioinformatique ?
Oui, tout à fait.
Et donc concrètement, donc vous travaillez dans des bureaux ?
C'est ouais, ça, dans ouais, de grands ouais, open space avec ouais, beaucoup de monde. Et j'ai travaillé justement dans les milieux de la banque, des assurances. Ça a été la première partie de ma vie professionnelle.
Choisir le maraîchage pour donner du sens à sa vie.
Perte de sens, un rouage parmi tant d'autres. Et puis, assez rapidement, le métier de maraîcher m'a titillé, en fait. Donc, je suis allé rencontrer quelques professionnels du secteur pour comprendre un peu le métier, comprendre ce que l'on fait réellement dans des structures plutôt petites. D'ailleurs, c'était surtout le format de petites structures qui m'attirait. Puis, j'ai découvert un métier passionnant, un métier plein de sens, très stimulant intellectuellement parlant, stimulant aussi physiquement, puisque c'est un métier qu'il ne faut pas se le cacher, qui est assez dur. Comme aujourd'hui, là, travailler dehors par des températures négatives, par exemple. J'ai découvert un métier, beaucoup d'a priori sont tombés au moment de ces visites. On va être comptable, on va être entomologiste, biologiste, agriculteur, on va être commercial, on va être tout ça en fait.
Il y a des années, il y avait une ferme à la Plaine.
C'est ça, c'était l'exploitation de monsieur et madame Richard à l'entrée de la Plaine. Depuis que j'ai commencé ce métier, en fait, j'entends régulièrement des témoignages et des anecdotes, notamment d'un exploitant qui se situait du côté de la Gravette, hein. Monsieur Gantier, qui avait des cultures spectaculaires à l'époque, voilà.
Aujourd'hui, c'est le jour de marché. Ici, les consommateurs ont aussi une démarche engagée, tout comme les collectivités qui réfléchissent de plus en plus aux circuits courts.
Mais comment vous avez défini votre projet d'une façon très synthétique ?
Alors le projet, c'était une ferme maraîchère sur petite surface, capable de faire travailler de 1 à 3 personnes en fonction des opportunités de croissance de la structure, et puis d'y produire toute l'année des légumes diversifiés en agriculture biologique.
D'accord.
Je pense que j'avais appris par la mairie qu'il allait y avoir un potager bio dans le secteur. Pour moi, c'était important de pouvoir consommer local, donc on en profite.
Et pourquoi est-ce que vous trouvez important d'acheter local ?
Soutenir pour moi l'agriculture rurale et locale pour être au plus proche en fait des producteurs qui sont à côté de chez nous, et donc là c'est une vraie chance d'avoir le potager d'Hector à côté de chez nous. On sait qui les prépare, on sait d'où ils viennent, de quelle terre. On a pris des épinards, du chou-fleur, des poireaux, des oignons, des pommes, donc une variété de produits de saison, légumes et fruits. Ouais.
Ces ventes à la ferme représentent la grande majorité en fait du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je complète ce chiffre d'affaires avec des ventes qui sont réalisées auprès de collectivités ou de boutiques autour, par exemple de cantines, de restaurants scolaires, notamment à la Plaine-sur-Mer, à Saint-Michel. Et donc
les cantines sont aussi donc d'accord pour consommer local.
Voilà, consommer local et bio.
Quel genre de personnes viennent dans votre potager ?
C'est des gens de tous horizons. C'est vraiment très représentatif de la démographie locale, en fait, hein, la démographie de nos communes côtières. Des jeunes, des moins jeunes. Chacun fait en fonction de ses propres besoins. Et voilà. On est des personnes qui ont été déconnectées d'une certaine saisonnalité des choses, des légumes, des fruits, etc. Des choses qui poussent à l'extérieur. Et donc, il est bon de se refaire cette saisonnalité dans la tête, en fait.
Très bien, ce sont d'excellents légumes. Et je voulais 2 poireaux, mais des petits.
Penser local, c'est aussi penser collectif.
Après, dans les grands enjeux à venir, c'est le réchauffement climatique, en fait. Hein. En premier lieu, la diminution de la ressource en eau. On voit qu'on a une ressource qui est un peu moins abondante. Comment est-ce qu'on doit tous réagir vis-à-vis de ça ? Parce que je pense que c'est une démarche collective. Et puis, je sais pas, à l'avenir, si jamais vraiment les choses ne s'arrangent pas, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la priorisation des usages ?
Retrouvez le potager d'Hector sur son site, lepotagerdhectortoutattaché.fr.
Il y a une réflexion à avoir tous ensemble sur ces sujets-là.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Frédéric Bispelblom pour Jade FM.